8h15 sur Europe 1, l'interview politique avec mon invité ce matin, Louis Gallois, ancien dirigeant d'Airbus de la SNCF, qui vient de quitter ses fonctions de président du conseil de surveillance de PSA. Bonjour Louis Gallois.
Bonjour.
Beaucoup de sujets à évoquer avec vous, et dans la continuité de ce que nous avons porté avec Europe 1 Solidaire il y a quelques jours, vous portez un message, un appel à mieux soutenir la jeunesse, notamment avec le levier, entrons dans le vif du débat, le levier RSA.
Oui, je dois dire qu'au début il y a quelques années, j'étais assez réticent à l'idée d'accorder le RSA aux jeunes, parce que je me disais que c'était pas une manière de rentrer dans la vie pour un jeune que de commencer à recevoir des aides.
C'est ce que dit le gouvernement, en substance.
Oui, mais moi j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que la situation des jeunes s'est dégradée. La crise d'ailleurs a ajouté à cela. On a beaucoup de jeunes qui n'ont plus aucune ressource. Qui sont sans formation, et quand vous n'avez aucune ressource, vous pouvez pas chercher de travail. Je pense qu'il faut leur donner les ressources qui leur permettent de s'engager dans une véritable recherche d'activité, et pour cela, je pense que le RSA, c'est le minimum qu'on puisse leur accorder.
Le minimum. Alors je voyais, Louis Gallois, c'est un point de vue exprimé dans Les Échos ce matin. Les jeunes ont besoin d'un capital de départ. C'est Niels Planel, professeur à Sciences Po Paris, qui suggère ça. Là, on parle plus que le RSA.
Je préfère l'idée d'un revenu, parce que le capital, les jeunes risquent de pas savoir quoi en faire de ce capital de départ. Je suis pas contre l'idée qu'on regarde ce que ça pourrait être et comment on peut l'organiser. Mais je pense que ils ont surtout besoin de pouvoir s'habiller, se nourrir dans des conditions telles qu'ils puissent en même temps chercher du travail. Sinon, comme je l'ai dit ailleurs, être pauvre, c'est un métier à plein temps. Et si vous n'avez aucune ressource, vous cherchez pas du travail, vous cherchez à vivre d'abord.
Il faut faire sauter ce levier.
Je pense qu'il faut les engager dans cela. Mais le RSA jeune, ça s'accompagne. Il faut de la formation, il faut de l'accompagnement, et puis je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un contrat. Un jeune qui reçoit le RSA ne pourrait pas refuser un job si ce job lui est proposé dans des conditions raisonnables, à la fois quant à ses capacités, quant à la rémunération, c'est au moins le SMIC, ça va de soi, et aussi des conditions d'éloignement.
Un RSA conditionné.
Si ces conditions sont remplies, le jeune doit pouvoir accepter l'emploi qu'on lui propose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois pour les jeunes actuellement, surtout quand ils n'ont aucune qualification.
Alors pour la jeunesse, on s'est réjoui très récemment encore des chiffres de l'apprentissage. Niveau record pour l'année 2020, on en a beaucoup parlé quand même ces dernières années. Dès qu'il était question de la jeunesse, on répondait apprentissage comme un serpent de mer. Mais le revers de la médaille, c'est qu'au 15 février, près de 30 000 jeunes, on en parlait ce matin sur Europe 1, inscrits depuis septembre, n'ont toujours pas de contrat. Les entreprises ne jouent pas le jeu, elles ne peuvent pas accueillir un apprenti.
Les entreprises ne sont pas dans une dynamique d'embauche actuellement. Les entreprises, elles sont d'abord dans une... Elles cherchent à sauver leur peau dans un certain nombre de cas. Et notamment celles qui peuvent embaucher les apprentis, qui sont souvent des artisans et qui ont de vraies difficultés. Donc je suis pas très surpris que ça soit difficile.
Ces jeunes-là, on ne les a pas un peu envoyés au casse-pipe finalement?
Non, on ne les a pas envoyés au casse-pipe. Je pense que l'apprentissage, c'est une excellente formation, et je suis sûr que dès lors que l'économie repartira, on trouvera du travail pour ces jeunes.
Pour les plus démunis, la situation va rester très critique dans les mois à venir. C'est ce que vous disiez, Louis Gallois, oui. Le 25 avril dernier, c'était sur Europe 1 d'ailleurs. Dans l'Obs, beaucoup plus récemment, à la fin du mois de janvier, vous disiez il faut plus de solidarité, on est en train de perdre, Louis Gallois, sur le front de la pauvreté, et les plus aisés s'en sortent mieux. N'y allons pas par quatre chemins. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts?
Moi, je pense qu'il faut un impôt de solidarité. Pour écoutez, il y a 30% des Français qui ont épargné pendant la crise. Il y a 30% des Français qui se sont endettés. C'est des pourcentages que je donne un peu de manière un peu frustrée.
Hein,
qui se sont endettés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui s'est appauvrie et une partie de la population, je ne dis pas qu'elle s'est enrichie, mais qui a pu préserver son pouvoir d'achat et son capital.
Mais c'est un tabou. On parlait du RSA pour les jeunes, aujourd'hui encore le mot impôt, c'est un tabou.
Le mot impôt, moi je dis un impôt temporaire. De solidarité pendant 2 ans, par exemple. C'est une nouvelle tranche, un accroissement De l'impôt payé sur les tranches les plus élevées de l'IRPP, c'est-à-dire de l'impôt sur les revenus, excusez-moi, me paraît quelque chose de souhaitable, parce que il faut que s'exprime cette solidarité dans le pays. Et cet argent devrait aller justement vers les jeunes, vers ceux qui ont des difficultés, vers ceux qui ont vraiment souffert de la crise. Parce qu'il faut le savoir, la crise, elle frappe d'abord les plus pauvres. Et c'est ce qu'on a vu en 2020 et ce qu'on verra probablement en 2021 aussi. Donc c'est cette situation à laquelle il faut faire face.
C'est peut-être plus facile de le faire passer, ce message des impôts pour la jeunesse, que si on explique aux gens que c'est pour rembourser la dette.
Non, je pense qu'il faut que cette recette exceptionnelle, puisque ça serait pendant 2 ans, soit affectée et que les gens sachent exactement à quoi ça sert. Mais je pense que cette solidarité est indispensable.
On va parler des transports avec vous ce matin, Louis Gallois, domaine que vous connaissez particulièrement bien. Mais avant de parler transports, je voudrais qu'on voyage. Il y a un genre de pays modèle à vos yeux. Je voulais qu'on prenne un instant pour s'arrêter sur la Corée. Modèle ou en tout cas source d'inspiration. 9000 kilomètres nous séparent de Séoul. Et en un mot, avec votre regard, pouvez-vous dire aux Français qui nous écoutent ce matin, aux décideurs peut-être, pourquoi il faut s'intéresser à la Corée ?
Mais vous avez un pays qui fait 50 millions d'habitants, on fait 67, on n'est pas très éloigné, qui n'a aucune ressource naturelle, qui a des voisins assez encombrants, la Chine, le Japon, et qui donc est dans une situation qui n'est pas obligatoirement très favorable. Et c'est un pays qui s'en sort magnifiquement, avec un niveau de vie qui est supérieur à celui de l'Espagne. Hein, c'est un pays développé désormais. Et c'est un pays qui a inventé une certaine forme de planification.
Oui, c'est une économie planifiée.
Oui, c'est intéressant parce que c'est une économie ouverte, c'est une économie qui est dans la compétition mondiale, mais qui a inventé une sorte de planification. C'est-à-dire qu'ils choisissent 2-3 priorités. Et ils investissent là-dessus et ils mobilisent le pays sur ces 2 ou 3 priorités. Je pense, nous avons maintenant au commissaire au plan...
François Bayrou.
François Bayrou.
Il doit réfléchir à la France de dans 30 ans.
Au commissaire au plan, ça veut dire plan. Et moi, j'attends que 2 ou 3 priorités soient définies, proposées au pays. Parce que vous savez, on parle beaucoup de réformes, mais je pense aussi qu'il faut parler de projets aux gens. Le projet, c'est mobilisateur. La réforme, ça fait peur. Il en faut des réformes. Hein. Je ne suis pas contre les réformes. Mais je pense aussi qu'il faut parler projet. Et c'est ce que le Japon... La Corée arrive à faire en se mobilisant sur des objectifs qui ont été définis.
Ces plans, c'est ce qui a donné aujourd'hui des entreprises, des géants comme Samsung, comme LG. Avec le commissariat au plan de François Bayrou, on est à la hauteur de ces enjeux-là, Louis Gallois.
C'est à François Bayrou de répondre. Mais je souhaite, moi, qu'il y ait un plan en France qui permettent de dégager des objectifs et qui montent des projets comme ceux que je viens d'évoquer, mais qui ces projets qui soient soutenus politiquement extrêmement fortement. Il y en a un qui s'impose de lui-même, c'est comment redresser l'appareil productif français. C'est une priorité absolue. Aucun pays ne peut vivre avec un appareil productif qui partirait en quenouille.
Et d'ailleurs, j'insiste, parlons justement de l'appareil productif français, parlons de l'industrie avec vous. Vous êtes un grand patron français, comme on dit, Louis Gallois, mais peut-être à travers le prisme de l'écologie. Aujourd'hui, vous qui avez dirigé Airbus, qui avez dirigé la SNCF, vous quittez PSA il y a quelques semaines. Sur cette question, on débat sans arrêt de mesures, du rôle de l'État. Concrètement, est-ce qu'il y a une volonté chez les industriels ?
Les industriels, vous savez, ils sont comme tout le monde. Et ils sont soumis aux pressions qui s'exercent. Et actuellement, tous les industriels que je connais regardent leur consommation, leurs émissions de CO2, regardent comment réduire les gaspillages.
Par exemple, je vais prendre au hasard, mais parce qu'on a beaucoup parlé de l'avion, est-ce que chez Air France, il y a un plan de décarbonage ?
Chez Air France ?
Oui.
Ah, mais Air France dépend beaucoup des constructeurs d'avions. C'est aux constructeurs d'avions de faire en sorte que les avions produisent émettent moins de carbone. Et je crois qu'Airbus est très engagé là-dedans, à la fois en améliorant la qualité des moteurs, en améliorant l'aérodynamique des avions, et en regardant quelle est la possibilité d'avions à hydrogène ou d'avions électriques pour les petits modèles. Tout ça est à l'étude. Mais vous savez, il y a une pression qui s'exerce extrêmement fortement sur les industriels, que ce soit la réglementation, j'ai vu ça dans l'automobile, la réglementation, que ce soit la pression des investisseurs, parce que maintenant les investisseurs disent « on n'investit plus chez vous parce que vous polluez trop ». Donc cette pression s'exerce, et ça va changer progressivement le modèle productif. Il faut que ça se fasse dans des conditions qui permettent à l'industrie de s'adapter.
Alors justement, est-ce qu'on a le temps, je prenais un autre exemple, sans quitter la pression des, sans parler de la pression des États uniquement, mais puisque vous parliez de l'automobile, vous venez de quitter PSA, pour ce qui est de Tesla par exemple, alors vous parlez de survalorisation, aujourd'hui Tesla, petit vendeur, mais qui connaît un développement boursier fou, cela dit, est-ce que ce n'est pas un peu nous l'ancien monde qui regardons un peu de haut cette nouvelle industrie qui émerge?
Moi je veux pas me prononcer sur la valorisation de Tesla, je crois que tout le monde considère qu'elle est un peu déconnectée de la réalité, mais Tesla est jugée comme les GAFA. Donc sa valorisation est très élevée. Ceci étant dit, Tesla nous dit quelque chose sur l'automobile. Vous savez, ils construisent une voiture non plus à partir du moteur, de l'embrayage, etc. Ils la construisent à partir de sa plateforme électronique. Ils installent la plateforme électronique et ils construisent une voiture autour. C'est un changement complet
de paradigme,
de perspective pour l'automobile. Et je pense que tout le monde devrait y aller.
Mais alors, si tout le monde y va et tout le monde est en train d'y aller, l'électrique, l'hybride, ouais, l'hydrogène, qu'est-ce que vous dites à ces milliers d'employés en l'occurrence qui sont dans l'industrie thermique? Il y a moins de pièces, il y a moins de réparations, il y a moins d'usines. C'est moins d'emplois à l'avenir.
C'est vrai qu'il y a des transitions à assurer, mais je suis persuadé que si l'industrie automobile européenne se saisit véritablement de ces enjeux, ça sera également créateur d'emplois. Parce que la place de l'industrie de l'automobile ne va pas se réduire. J'entends dire que on veut plus d'automobiles dans les villes, mais quand ça sera des véhicules électriques, les obstacles seront moins grands. Mais je pense que l'industrie automobile continuera à employer du monde. Pas les mêmes personnes, c'est ça le sujet. C'est qu'on va passer d'une structure d'emploi à une autre. Et il va falloir de la transition, une transition, et cette transition, c'est beaucoup de formation.
De la planification, de la formation. On revient sur quelques éléments de l'interview. Louis Gallois, un dernier mot, puisqu'on parle de l'industrie française et d'une manière plus générale. On en terminera par là. Dans une interview à Ouest France, il y a une semaine, vous avez comparé la France et l'Allemagne sur l'intérêt pour l'industrie. En Allemagne, le salon star, c'est celui de la machine-outil. À Hanovre, en France, c'est le salon de l'agriculture. Est-ce que pour terminer, vous pouvez préciser votre pensée? Qu'est-ce que ça dit de nous?
Je pense que c'est un peu caricatural ou symbolique. Ça veut dire que les Allemands sont câblés pour faire de l'industrie, et nous avons des racines agricoles extrêmement fortes. Moi, je suis très heureux des racines agricoles françaises, mais il faut maintenant passer à une nouvelle étape. Je ne dis pas qu'il faut perdre notre agriculture, au contraire, mais je crois qu'il faut que les Français aiment leur industrie et envie d'aller travailler dans l'industrie, parce que c'est vraiment très important, et puis c'est les plus beaux métiers du monde.
Louis Gallois, c'est un jeune retraité que je parle. Alors, pour le coup, je vois pas vraiment la différence avec le Louis Gallois d'avant la retraite.
mais j'espère que non.
Il y en a une? Non, merci beaucoup Louis Gallois, ancien grand patron français, d'être venu ce matin nous parler d'abord de la jeunesse, et puis de l'industrie, bien sûr, sur Europe 1. Il est 8h27.